Il est 18h30 en temps universel, vous êtes toujours sur RFI.
Afrique Soir.
Et c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clotilde, bonsoir à tous. Les pays d'Afrique de l'Est confrontés à de graves inondations, au moins 115 morts en Tanzanie, des milliers de déplacés au Burundi. Nous irons au Kenya, à Nairobi. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. La journée mondiale contre le paludisme. Aujourd'hui, 3 pays d'Afrique supplémentaires rejoignent le programme de vaccination à destination des enfants. Parmi eux, le Bénin. À suivre le reportage de Jean-Luc Aplogan. Nous parlerons de ce bras de fer entre Kinshasa et le géant Apple. Kinshasa accuse la firme d'utiliser des minerais stratégiques exploités illégalement en RDC par des milices armées soutenues par le Rwanda. Les pays du Sahel dirigés par des militaires rebattent les cartes. Aujourd'hui ont débuté au Niger avec les autorités des États-Unis les discussions sur le départ des forces américaines. Un millier de soldats américains sont stationnés dans la base d'Agadez. Les sports au Caire, les 45e championnats d'Afrique de judo. L'enjeu pour les judokas, décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Enfin musique avec la sélection d'Hervé Mandina alias DJ Facemaker le jeudi. C'est le jour de l'Afro Club sur RFI Musique. Allons d'abord au Sénégal où la rumeur courait depuis plusieurs jours. C'est désormais officiel, la 15e Biennale de l'art africain contemporain qui devait s'ouvrir le 16 mai à Dakar est reportée au 7 novembre. Léa-Lisa Vesterov, vous êtes en ligne de Dakar. Bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
Et c'est un coup dur pour les organisateurs de ce rendez-vous culturel de renommée mondiale. Le report est dû à un manque de financement.
Oui, le communiqué signé de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadidi Ndiaye, n'est pas aussi explicite. Il parle de contraintes, sans plus de précision, et aussi de la volonté des nouvelles autorités d'organiser la biennale dans des conditions optimales, à la hauteur, je cite, de sa réputation de rendez-vous historique des amateurs d'art du monde. Le nouveau rendez-vous est donc fixé du 7 novembre au 7 décembre. Est-ce que c'est un coup dur pour cet événement qui, depuis sa création en 1992, n'a été reporté qu'une seule fois en raison de la pandémie du Covid-19. Et vous le disiez, selon plusieurs sources, des difficultés budgétaires sont à l'origine de ce report. L'événement, et c'est sa spécificité, est quasi exclusivement financé par des fonds publics, le budget du ministère de la Culture. Or, les deux derniers versements prévus pour cet événement n'ont pas été honorés par l'administration précédente. L'argent a été utilisé pour autre chose, me disait un membre du comité d'organisation. Or, sans cet argent, dont les organisateurs attendaient le versement depuis des semaines. Impossible d'avancer dans les préparatifs et notamment de financer le transport des œuvres venues du monde entier jusqu'à Dakar ou d'éditer le catalogue. À 21 jours de l'événement, il fallait donc se rendre à l'évidence et reporter l'événement, assurent les organisateurs.
Léa-Lisa Vesterov en ligne de Dakar. J'ajoute que de nombreuses galeries d'art dakaroises ont prévu de maintenir toutefois la programmation du festival OFF qui financé par des fonds privés et compte bien communiquer dans les prochains jours sur le maintien de la programmation artistique. Le Sénégal où le blogueur guinéen Djibril Agui Sylla reste finalement. Cette voix critique du pouvoir en Guinée devait être remise à la section Interpol de son pays en vue d'une expulsion vers Conakry. Mais selon son avocat, le ministre sénégalais de l'Intérieur a décidé de sursoir à la demande de la police guinéenne pour mettre Amadou Ali Kane. C'est une première victoire pour son client. Il demande désormais une remise en liberté de Djibril Agui Sylla, qui est toujours détenu à la division des investigations criminelles, mais à la condition que celui-ci observe désormais un devoir de réserve. Dans l'actualité également, le début aujourd'hui au Niger des discussions avec les autorités des États-Unis, des discussions consacrées au départ des forces américaines. Rappelons qu'un millier de soldats américains sont stationnés dans la base d'Agadez et c'est aux côtés de l'ambassadrice américaine au Niger, Kathleen Fitzgibbon, que le directeur de la stratégie de l'Africom doit faire face aux autorités militaires nigériennes. Les précisions de Kaoru Magasa.
Aucun engagement ni calendrier sur le départ des forces américaines n'a pour l'heure été annoncé, mais les principaux défis de ce retrait se concentrent autour de la base aérienne d'Agadez. La quasi-totalité des 1000 soldats américains présents dans le pays y sont positionnés. Évacuer les hommes et le matériel en toute sécurité hors du Niger prendra plusieurs mois, cela avant que la base soit rétrocédée aux autorités nigériennes. Les discussions engagées sur le départ des soldats américains sonnent donc le glas de la coopération militaire entre les deux pays, mais pas la fin de leurs relations. Sur les plans de l'aide au développement et de l'humanitaire, Washington souhaite poursuivre sa collaboration avec Niamey. La directrice de l'Agence américaine pour le développement international dans le pays a assuré ce lundi que l'institution allait poursuivre sa coopération bilatérale avec le Niger. Sur l'aspect militaire, c'est dorénavant avec la Russie que le Niger souhaite opérer. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, est actuellement à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 12e conférence internationale des représentants pour les affaires de sécurité. Cela, 2 semaines à peine après l'arrivée à Niamey d'instructeurs et de matériel russe.
Kaourou Magassa, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h passée de 35 en temps universel. Glissement de terrain, inondation, la saison des pluies aggravée par le phénomène climatique El Niño fait des dégâts dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, Burundi, Ouganda, la Tanzanie, elle est endeuillée. Les autorités ont dénombré au moins 150 morts dans plusieurs régions. Au Kenya voisin, le bilan s'est alourdi dans la capitale Nairobi et dans les comtés. Nous devons mettre tout le monde en alerte, c'est ce qu'a dit le président kényan William Ruto. Écoutez ce reportage de Gaël Alex.
Le secteur 4A de Mataré, le deuxième plus grand bidonville de Nairobi, offre un spectacle désolant. Des dizaines de maisons ont été emportées par les eaux. La mère de Collins était chez elle avec ses voisins quand les pluies les ont fauchées.
Il pleuvait fort, l'eau a commencé à monter et tout d'un coup, l'eau les a engloutis. L'eau dépassait cette hauteur. Vous voyez ça, là ?
Vous voulez dire la maison, là ?
C'était le niveau de l'eau, puis la maison s'est effondrée et ceux qui étaient dedans ont été pris au piège, donc ils n'ont pas eu le temps de s'échapper.
Avec quelques pelles, mais surtout à main nue, les habitants du quartier cherchent encore les corps des derniers disparus. À Piolal, du Centre pour la justice sociale de Mataré.
Ce matin, nous avons retrouvé un corps, à quelques mètres de là, juste à côté des toilettes. Nous n'avons rien, pas de gants, pas de bottes, on creuse avec ce qu'on trouve.
Vous n'avez aucune aide des autorités ?
Le gouverneur est venu hier prendre quelques photos. Il est très doué pour ça, les photos. Il a pris des photos et il est parti.
Plus de 24 heures après les inondations, ce sont des volontaires de l'organisation Salvage Wilderness qui viennent enfin prêter main forte. Alex en fait partie.
Ça, c'est la chambre d'une maison qui s'est effondrée. Et cette tôle-là, c'est le toit. Nous sommes à la recherche du corps d'un bébé de 4 mois qui doit se trouver juste ici. Nous sommes les premiers à être venus apporter de l'aide, en dehors des habitants du quartier. Donc la situation est terrible.
D'après l'Institut Météo kényan, les fortes pluies se poursuivront tout au long du mois de mai. Gaël, Alex, Nairobi, RFI.
Vers un bras de fer judiciaire entre le groupe Apple et la République démocratique du Congo, la firme est accusée par Kinshasa d'utiliser des minerais issus de ces mines, mais exploités illégalement. L'État congolais dénonce des violations des droits humains. Les avocats mandatés par le gouvernement ont adressé des mises en demeure au groupe américain Arthur Ponchelet.
L'une des mises en demeure a été envoyée à la maison mère d'Apple en Californie, l'autre à deux de ses filiales françaises. Kinshasa accuse la firme à la pomme d'utiliser des minerais stratégiques exploités illégalement en RDC par des milices armées soutenues par le Rwanda, dans des mines où travailleraient des enfants et des civils sous la contrainte, selon eux. William Bourdon, l'un des avocats mandatés par Kinshasa.
Nous posons une liste de questions aux sociétés concernées au regard de leurs propres engagements de traçabilité. Il y a en creux des cas entre le dispositif que prétend avoir mis en œuvre Apple et la réalité. Et on dit évidemment à Apple qu'on se réserve toute voie de droit, c'est-à-dire que toutes les options judiciaires sont sous la table.
Contacté, le groupe Apple renvoie à son rapport annuel de 2023, rapport dans lequel il indique n'avoir aucune base raisonnable pour conclure que sa chaîne d'approvisionnement a directement ou indirectement financé ou bénéficié à des groupes armés en RDC ou dans un pays limitrophe. Cette action judiciaire intervient quelques jours avant la visite de Félix Tshisekedi à Paris, et ce n'est pas un hasard si cette mise en demeure intervient maintenant, selon des sources proches de la présidence. L'État congolais entend évoquer ce dossier avec la France, à qui il demande plus d'engagement sur le conflit avec le Rwanda.
Vous écoutez RFI à présent le dossier d'Afrique Soir.
Afrique Soir sur RFI.
Et ce 25 avril marque la journée mondiale contre le paludisme. 3 pays africains supplémentaires ont commencé à déployer à grande échelle des vaccins contre la malaria destinés à des millions d'enfants. Parmi eux, le Bénin, un stock de 215 000 doses qui ont été réceptionnées en janvier dernier, va être déployé dans les zones sanitaires prioritaires. Et lors d'une cérémonie solennelle, les premiers enfants ont été vaccinés ce matin à Alada, c'est à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cotonou. Le reportage de Jean-Luc Aplogan.
La cérémonie s'est déroulée dans la cour d'une école de formation avec une présence remarquée de plusieurs dizaines de femmes avec leurs bébés dans les bras ou au dos. Les orateurs au pupitre ont donné des statistiques sur les dégâts de la malaria chez les enfants en Afrique avant de saluer l'arrivée du vaccin. En milieu de discours, le ministre de la Santé répond à une question que tout le monde se pose, Benjamin Houpati.
Ce vaccin est un vaccin sûr.
Après les discours, les premières doses pour les bébés, ils sont piqués au bras, ça déclenche quelques pleurs. Frida, mère d'un bébé de 8 mois, a fait vacciner sa fille en toute confiance.
J'ai confiance en ce vaccin. Si c'était pas bon, l'État ne peut pas sensibiliser la population pour ça.
Mais le ministre de la Santé, qui a géré les réticences pendant la Covid-19, a lancé cet appel aux anti-vaccins.
Ne pas se laisser berner par les esprits mal intentionnés qui circulent des propos à la limite dangereux.
Mais il y a déjà des hésitations, comme ce père de famille, encore prudent.
Je vais attendre quand même quelques mois, voir en fait s'il y a des effets secondaires.
Selon nos informations, le gouvernement attend le mois prochain sa seconde livraison. On ignore encore le nombre de doses commandées. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et la malaria fait toujours des ravages en Afrique, hein, mais la mise au point de nouveaux vaccins destinés aux enfants redonne de l'espoir, notamment grâce au RTSS, désormais homologué par l'Organisation mondiale de la santé, et qui donne déjà de bons résultats en Afrique. Le docteur Abdul Aziz Baya, responsable de l'introduction de ce nouveau vaccin au bureau UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, était l'invité de Nicolas Sur d'Afrique Midi.
Les résultats enregistrés dans les 3 premiers pays qui ont eu à introduire le vaccin, à savoir le Ghana, le Kenya et le Malawi, la mise en œuvre du vaccin a entraîné une réduction substantielle des cas graves dans les zones où le vaccin avait été administré.
De quel ordre ?
On a constaté, par exemple, une baisse de 13% du nombre de décès chez les jeunes enfants et une réduction de 22% des cas d'hospitalisation. Il faut juste préciser que l'impact mesuré lors de la mise en échelle de ce vaccin s'ajoute à celui d'autres moyens de prévention de lutte contre le paludisme, à savoir la chimioprévention saisonnière et l'administration de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Alors, on va être très concret, docteur Aziz, comment et à quel âge ce vaccin doit-il être administré ?
Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le calendrier vaccinal pour le vaccin antipaludique débute à l'âge de 5 mois pour un cycle de 3 doses espacées d'un minimum de 4 semaines d'intervalle. Pour un maximum d'efficacité, il est conseillé d'administrer une 4e dose lors de la 2e année de vie de l'enfant et dans certaines conditions, dans les zones à forte transmission, il est également recommandé, selon les cas, d'administrer une 5e dose de vaccin à l'enfant pour accroître sa protection.
Alors l'objectif, docteur, c'est donc de vacciner le maximum d'enfants. Ça a un coût. Est-ce que le financement est assuré ?
Les pays sont engagés, ils mettent des ressources, mais également les partenaires sont là pour les appuyer, notamment dans l'allocation et l'approvisionnement en vaccins et en intrants pour la vaccination, mais également tout ce qui est en ressources humaines, en partage d'expériences et en appui à l'introduction de ce vaccin.
Docteur Aziz, la vaccination anti-paludique représente donc un énorme espoir. Est-ce qu'une éradication totale du paludisme est aujourd'hui possible ?
Pour parler d'éradication, je crois qu'il faudra qu'on atteigne un certain taux d'élimination et que des pays puissent vraiment éradiquer. Bon, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que avec tous les moyens disponibles pour la prévention, nous pouvons, par exemple, aller vers un contrôle, une élimination, mais l'éradication est une autre étape. Je donne juste l'exemple dans notre région. Le Cap-Vert a été déclaré malaria-free en ce début d'année 2024 parce qu'il est resté au moins pendant 3-4 ans où il n'y en a pas déclaré de cas autochtones. Donc l'éradication, c'est possible, mais il faudra vraiment conjuguer beaucoup d'efforts encore pour pouvoir atteindre ce niveau d'éradication.
Le docteur Abdulaziz Baya, responsable de l'introduction de ce nouveau vaccin contre la malaria au bureau de l'UNICEF pour l'Afrique. On en vient au sport et au 45e championnat d'Afrique de judo qui ont débuté aujourd'hui au Caire. 190 judokas vont s'affronter jusqu'à samedi. L'objectif, tenter de gagner le plus de points qualificatifs pour les JO de Paris. Dans la catégorie des moins de 66 kilos, l'espoir gabonais Fernand Queiroz a perdu tout à l'heure son combat pour le bronze. Il s'est contenté de la 5e place, mais il ne baisse pas les bras. Pour autant, c'est un reportage au Caire d'Edouard Dropsy.
La déception se lit sur tout son corps, soutenu fraternellement par ses compatriotes. Le Gabonais Fernand Queiroz fait le bilan de cette première journée où il a fini 5e.
Je suis arrivé jusqu'en demi-finale. Après cette défaite en demi-finale, mon moral était à terre. Mais dans l'ensemble, techniquement, c'était bien dès le début. C'est comme j'ai dit, après la demi-finale, je me suis sorti de la compétition.
Mais pas question pour le jeune prodige de 21 ans, numéro 1 africain junior des moins de 66 kilos en 2022 et 2023, de baisser les bras. Il multiplie les stages à l'étranger et garde espoir de s'envoler pour Paris lors des JO.
Pour les JO, je suis en course. Judo gabonais, bien sûr, contre moi. Bon, malgré cette déception aujourd'hui, on va travailler pour revenir plus fort.
Pour Nicolas Mallet, qui l'entraîne une fois par semaine à Paris, son potentiel reste le même.
Il reste encore des compétitions internationales aussi, dont les championnats du monde. Donc il reste encore des points à engranger. Après, forcément, on sait que sur chaque compétition, le niveau est relevé, puisque tous les athlètes y vont aussi pour marquer des points. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'est arrêté encore, donc voilà. Tout est possible.
D'ici la clôture des qualifications pour les JO mi-juin, la Panthère peut encore rattraper son retard et rêver de représenter le Gabon à Paris. Et dans Dropsy, Le Caire, RFI.
RFI, les 18h passées de 46 minutes en temps universel et titre de l'actualité.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet.
En Haïti, c'est l'aboutissement de longues tractations. Le Conseil présidentiel de transition a prêté serment après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry. Les 9 membres du Conseil, 8 hommes et une femme, ont été investis lors d'une cérémonie au palais présidentiel de Port-au-Prince. Une vague de chaleur en Asie, les températures s'affolent aux Philippines, en Birmanie et en Thaïlande. Les habitants de Bangkok, où il fait plus de 40 degrés depuis quelques jours, sont invités à rester chez eux. La canicule a déjà fait une trentaine de morts dans le pays. Le Bangladesh, lui, a fermé ses écoles. Prochain journal sur RFI à 21h, heure de Paris. Ce sera en compagnie d'Adrien Delgrange. Au Tchad, la campagne électorale bat son plein en vue de la présidentielle du 6 mai. 10 candidats en lice, 9 hommes et une femme. Vous avez déjà entendu un certain nombre d'entre eux. À la même heure, voici ce soir le candidat Balthazar Aladoum Djarma de l'Action sociale tchadienne pour le renouveau. Il répond aux questions de Carole Valade.
Balthazar Aladoum Djarma, bonjour.
Bonjour Valade.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure?
C'est combattre un fléau, à la limite une maladie qui s'appelle la faim. Et donc nous décidons de nous atteler pour que le Tchad arrive à l'autosuffisance alimentaire, au moins pour enrayer donc les autres maux qui sont donc la conséquence de cette faim, parce que la corruption dans tous les secteurs découle donc de la faim. Nous disons que si aujourd'hui un juge est corrompu, un agent de force de défense est corrompu, il y a des gens qui deviennent des bandits, c'est justement parce qu'ils ont faim. Donc nous allons combattre la faim. Et nous disons que si chaque Tchadien mange à sa faim, il va donc être en paix, et s'il est en paix, il va s'investir pour le progrès.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous diriez que les Tchadiens ne mangent pas tous à leur faim?
Aujourd'hui, il y a des Tchadiens qui, au soir, avant d'aller au lit, pensent qu'est-ce qu'ils doivent mettre sous la dent demain. Les Tchadiens, il y en a parfois qui font des semaines qui ne mangent pas. Pourtant, nous avons de l'eau, nous avons de la terre et nous avons de la possibilité. Mais c'est justement parce qu'il manque une bonne politique dans le secteur agricole. Nous avons donc cette possibilité de motoriser l'agriculture et pourquoi pas aussi de valoriser le secteur de l'élevage. Et si l'agriculture est motorisée, le secteur de l'élevage est valorisé, ça voudrait dire qu'on va même éviter les conflits inutiles qui sont aujourd'hui les conflits agriculteurs-éleveurs.
Les conflits agriculteurs-éleveurs qui sont un véritable fléau dans le pays. Malheureusement, presque chaque mois, des incidents qui font très souvent des dizaines de morts. Comment vous comptez mettre un terme à cela?
Aujourd'hui, si nous motorisons l'agriculture, nous allons regrouper les agriculteurs en coopérative et nous allons donc avoir donc des périmètres, sinon des fermes bien protégées et retracer les couloirs de transhumance pour permettre à ce que les éleveurs, eux aussi, passent là où c'est permis. Et nous allons donc, comme je l'ai dit, en restructurant donc l'État, procéder à l'adoption d'un texte qui va donc consacrer le tracé de couloirs de transhumance et les aires de pâturage seront aussi aménagées, de sorte que ni l'éleveur ni l'agriculteur n'auront de conflit pour que des Tchadiens meurent, parce que toute vie tchadienne qui tombe est une vie de trop qu'on perd.
Au Conseil national de transition, vous êtes à la fois membre du groupe d'amitié Tchad-Russie et aussi membre du groupe d'amitié Tchad-États-Unis. Comment vous voyez-vous aujourd'hui le positionnement du Tchad sur la scène internationale ?
Le positionnement du Tchad sur le plan international à l'heure précise que nous parlons me semble être ambigu. Parce que j'ai lu il y a quelques jours un courrier qui demande aux forces américaines de partir. J'étais aussi un peu surpris par la dédicace du livre du président en première position à Poutine, qui est le président de la Russie. En réalité, le peuple tchadien est en train de faire des revendications à l'image des autres peuple du pays de Sahel. Mais je me rends compte que le président de la République est instable dans la gestion de cette question. Instable.
Comment ça ?
Oui, parce que le matin, il pense être l'ami de la France. À midi, il a un penchant pour la Russie. L'après-midi, il pense que les États-Unis peuvent faire quelque chose. C'est dangereux pour un homme politique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Cette nouvelle donne, c'est qu'il y a une jeunesse qui revendique. Mais nous n'allons pas abandonner un partenaire traditionnel pour aller avec un autre partenaire au détriment des autres. Donc nous allons renégocier partout les accords pour que le Tchad tire profit.
Balthazar Aladoum Djarna, merci beaucoup.
Merci.
Et pour plus d'informations sur le candidat Balthazar Aladoum Djarna et son programme, rendez-vous sur le site rfi.fr. Il répondait aux questions de Carole Valade. À écouter ce soir sur la Radio du Monde, Accent d'Europe, c'est à 19h10, temps universel, juste après cette émission. On va réécouter également, il y a 50 ans, c'était la révolution des œillets au Portugal. Ce jour-là, des officiers et le peuple de Lisbonne renversaient la dictature, comme l'a expliqué au cours d'une émission spéciale l'historien Yves Léonard.
Sur le terrain, ça se passe pas bien, surtout en Guinée. Effectivement, la Guinée, c'est, comme on le dira à l'époque, le Vietnam du Portugal. C'est ça qui va fédérer les capitaines d'avril. On ne continue pas la guerre coloniale. Il faut trouver une solution politique. Et comme le régime est incapable depuis des années de trouver une solution politique, eh bien nous allons la trouver. Nous allons renverser le régime.
Voilà, Accent d'Europe, 21h10 heure de Paris. Grand reportage vous emmènera, lui, en Slovénie, nichée entre les Alpes juliennes et la mer Adriatique. La vallée de la Vipava subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. C'est un grand reportage signé Agnieszka Kumor.
Des travaux d'aménagement de la rivière Vipava engagés dans les années 80 ont incontestablement apporté l'essor économique dans la région. Mais ils ont aussi eu pour effet de nombreux problèmes environnementaux. Pour faire place aux cultures céréalières, on a coupé des arbres et des arbustes formant des barrières naturelles contre le vent. Ce vent d'hiver très fort, appelé Buria, provoque l'érosion des sols et la sécheresse. D'autres problèmes sont aussi apparus, comme des crues récurrentes qui inondent la partie basse de la vallée ou encore la perte de la biodiversité.
Et à 22h10, Couleur Tropicale sera consacrée au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et vous avez reconnu le générique qui nous annonce l'arrivée en studio d'Hervé Mandina, alias ce DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et le jeudi, c'est le jour de l'Afro Club sur RFI Musique. C'est votre sélection des tendances afro-urbaines et vous avez choisi de nous faire écouter le franco-congolais Naza.
Oui, Naza qui a pris tout le monde de court en se mettant à la main piano. Vous savez, cette tendance musicale venue d'Afrique du Sud, eh ben, l'ambianceur du rap français fait preuve d'efficacité avec son nouveau titre Kouloulou. Vous allez voir, on danse, on rit, on chante, bref, on fait la fête et c'est ma première proposition ce soir dans Afrique Soir.
Ça c'est ma vie et pas celle d'un autre.
Sois ma baby Mariana. Pour mon train de vie qu'on veut m'avoir. Tu veux ma peau, toi tu m'as fololo. C'est des menteurs, ils veulent me follow.
Ah oui, l'Ama Piano, c'est la grande déferlante, hein. C'est dansant ce couloulé de NASA. On va enchaîner, Hervé, avec Feno Ambro du Togo, qui est accompagné de son compatriote Tony X.
Oui, Tony X dit le félin, qui a accepté l'invitation de Feno Ambro, son compatriote, sur le morceau Dindin, extrait de l'EP de ce dernier, My Time. Composé d'à peine de titres, donc cette EP relance Feno Ambro sous les feux de la rampe. Dindin est une expression en mina qui signifie se dandiner. Eh bien, nous allons vérifier cela tout de suite en écoutant un court extrait et je vous observe Sylvie.
Hello, baby, when I don't hear from you, I'm crazy. Je connais un petit lap, oh, I miss you every day. I'm ready, tell me whatever you want, I go give you. Baby, no be yoko, n'leji la nyale, yo font de la. Ojo le den den den. Bebe mba mba no ten ten ten. Mano yi mano ba oma yi ten ten ten. Saku waba ten ten ten.
On a fait dindin. Allez, place à présent à la séquence rétro du jeudi. Vous avez choisi de revenir sur le succès d'Amadou et Mariam, Je pense à toi.
Oui, retour sur le premier succès du plus célèbre couple malien, Amadou et Mariam. On est en 2005, lorsque cette chanson mélancolique arrive en France sous l'impulsion du label Decca Records. Je pense à toi rencontre très vite un succès populaire salué par la critique. On va écouter une version remasterisée par un certain DJ Facemaker sorti en 2020.
L'œuvre originale reste intacte. Amadou et Mariam et leur tube Je pense à toi. Pour terminer, Hervé, vous nous emmenez à Mayotte à la découverte de Kamal.
Ouais, Kamal, un peu de karaté, ça vous dit, Sylvie?
Bah, on va essayer.
Allez, loin de moi l'idée de vous défier sur un dojo, c'est plutôt le titre du Mahorais Kamal qui a réussi le pari de fusionner un rythme traditionnel mahorais aux sonorités modernes de l'afro. C'est très efficace et ça déménage. Et d'ailleurs, je déclare officiellement le week-end ouvert sur ce titre, karaté.
C'était notre rendez-vous culture et musical avec DJ Facemaker. Une belle énergie, hein, signé Kamal. L'Afro Club est déjà en ligne, hein, sur les réseaux sociaux d'RFI. Eh bien, Hervé, on va se dire à la semaine prochaine.
Ah oui, je vous souhaite un bon week-end, Sylvie, et prenez soin de vous.
Merci pareillement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir à la réalisation ce soir, Jonathan Brady.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
En entreprise, on est jugé vieux, de plus en plus jeune. Comment lutter contre l'âgisme, la discrimination basée sur l'âge ? À quand une reconnaissance de l'expérience ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.